Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire, portrait inspirant. L'Imaginoire est une émission dont le but est de donner la parole aux déficients visuels, trop souvent exclus du débat public, mais aussi de créer du lien entre les déficients visuels et le grand public. Et au passage, si nous pouvons vous sensibiliser un peu au monde de l'handicap, eh bien nous en serions fort aises. Vous écoutez la 54e émission, mais pour autant, notre porte reste grande ouverte. Grande ouverte à toutes et tous, si vous vous sentez quelque peu concerné. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Contactez-nous par votre radio qui nous passera le message, par mail à l'imaginoir@lilo.org ou via les réseaux sociaux. Trouvez-nous sur Facebook, Instagram ou encore YouTube. Alors dans l'émission précédente, nous avions embarqué pour le Congo Kinshasa en compagnie de Caleb, à qui on passe un très grand bonjour, car nous savons qu'il nous écoute en ce moment. Eh bien aujourd'hui, on vous emmène à La Réunion, à la rencontre de Jean-Philippe Sevagami. Bonne écoute, bonne balade.
Bonjour Jean-Philippe Sevagami. Nous souhaiterions aujourd'hui un peu mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie ?
Bonjour, moi c'est Jean-Philippe Sevagami. Je suis originaire de la rivière Saint-Louis à l'île de la Réunion. J'ai été auparavant voyant, malvoyant et non-voyant. Dans les années 89, j'ai commencé à moins percevoir en acuité visuelle.
Quel âge vous aviez alors en 89 ?
Oh, en 89, j'avais 20 ans, je dirais. Et je commençais donc à être malvoyant, reconnu en tant que malvoyant. Donc j'ai dû aller vers des établissements spécialisés parce que dans les écoles, c'était plus possible. Au lycée, tout ça, c'était plus possible.
Une scolarité normale jusqu'à quelle classe ?
J'ai suivi une scolarité normale jusqu'à la 4e. Et par la suite, j'ai dû... classe, hein, il faut le dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 20 ans, on m'avait orienté vers un établissement spécialisé à la ressource, au centre de la ressource, mm-hmm. à Sainte-Marie, à La Réunion. Mais le problème, c'était trop tard. À 20 ans, on me prend plus. On ne promenait plus au centre de la ressource.
À la ressource, ils sont censés faire quoi ? Ils aident les jeunes à finir leurs études, à obtenir un diplôme, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et à partir de 20 ans, il y a un suivi qui se fait dans les établissements extérieurs. Mais moi, vu que j'avais 20 ans, on ne pouvait pas me prendre. Donc j'ai été en métropole, suivi une formation en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un brevet professionnel sur l'horticulture.
Oui.
Et à partir de là, j'étais toujours malvoyant. Hein.
C'était la première fois que vous alliez en métropole ?
Oui, tout à fait, oui. Et c'est là que j'ai vu aussi Paris, j'ai pu découvrir les Côtes d'Arbor, la Vendée, la Normandie. C'était vraiment le week-end surtout. Hein. La semaine, c'était la formation et le week-end, la détente.
Oui, à cette époque-là, si je comprends bien, à 20 ans, vous aviez encore un peu de vue.
Oui,
donc,
oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez perçu de cette France dans laquelle vous avez débarqué ?
Oh, ben c'était beau. C'était beau, la Tour Eiffel, le bateau-mouche. Même le paysage de la Vendée, de le Sable d'Olonne, la Normandie, Coutances, ou même Plénijugon où j'étais en formation. C'était vraiment le milieu agricole, c'était beau à découvrir tout ça. J'ai jamais regretté.
Vous n'avez pas souffert un peu de la solitude parce que ça vous éloignait de votre famille, de vos amis
Pas du tout, parce qu'avant, moi j'étais timide. Il faut savoir que moi j'ai été timide et quand j'étais vivre en métropole... Il faut savoir, ma timidité est passée.
Ouais.
Parce que j'ai su alors que j'avais pu être en contact avec les non-voyants, les malvoyants. Le fait d'être en contact avec eux m'a permis d'enlever ma timidité. À partir de là, je m'étais dit, je suis dans le monde actif. Je suis loin de ma famille. Je peux faire mon ménage comme tout le monde. Gérer mes affaires, gérer mon appartement, mon argent comme tout le monde. J'ai un salaire comme tout le monde. Et la vie a commencé à partir de là.
D'accord, ça vous a enlevé éventuellement les complexes que vous aviez. J'imagine qu'à un moment donné, vous vous sentiez vraiment dépendant des autres. Et là, vous avez acquis une certaine indépendance.
Tout à fait. Une certaine autonomie, surtout, oui.
Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoir, portrait inspirant, en compagnie de Jean-Philippe. Retour à l'entretien.
J'ai dû retourner ici à La Réunion en 96 par rapport à mon problème, c'était je suis devenu non-voyant. Et quand on devient non-voyant, là on est vraiment perdu. Et pour cela, il a fallu faire une rééducation à Marly-le-Roi sur Paris, à côté de Versailles, et revenir à La Réunion. Et je me suis donné un challenge, si on pourrait dire. Je m'étais dit, je vais rentrer à La Réunion, mais avant tout, je dois apprendre le braille, je dois apprendre la locomotion, je dois me débrouiller pour montrer à mes parents que je suis autonome, que je peux me débrouiller tout seul.
Ce qui fait donc que vous avez passé 7 ans en métropole, de 1989 à 1996.
Oui, tout à fait.
Le temps de vous former un peu à l'horticulture, mais hélas aussi de voir votre maladie s'aggraver puisque vous avez totalement perdu la vue pendant cette période-là.
Oui, j'ai perdu la vue et le fait de perdre la vue, je devais reprendre un travail ici sur La Réunion qu'on m'avait promis.
C'était de l'horticulture ?
Oui, dans la pépinière de M. Tiernakoun, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que la Cotorep à cette époque me disait « Vous venez d'être non-voyant ». Et ce sera dans un centre d'aide par le travail, un atelier protégé. Moi, je n'ai pas voulu. Je m'étais dit, du fait que je suis non-voyant, je vais rencontrer des gens. Je ne sais pas si je vais avoir le moral pour être devant eux.
C'était une période où vous étiez déprimé ?
J'avais pas trop le moral à cette époque. Donc, ce que je me suis lancé comme défi après, par la suite, je me suis dit, je vais aller vers les associations, dans le monde associatif. Là, je vais pouvoir aider les autres. Et c'est à ce moment-là qu'en 1998, j'ai monté ma propre association. C'était une association pour sport et loisirs.
Et donc, orientée vers les personnes déficientes visuelles ?
Toujours. Mm-hmm. Et à partir de là, j'ai commencé à rencontrer du monde. J'ai commencé à rencontrer du monde et même à connaître ma femme.
Ah, vous étiez célibataire jusqu'à présent ?
Oui, donc, tout à fait. Et à partir de 1998, j'ai rencontré ma femme. On a fondé une famille ensemble. On a eu un enfant ensemble. Et malheureusement, il y a 2 ans de ça, je me suis séparé. Mais parce que nos chemins se sont séparés, voilà.
Et puis la vie continue, mais vous gardez un très bon souvenir. Vous n'êtes pas resté une vingtaine d'années comme ça, en famille ? Comme tout le monde, le papa, la maman et l'enfant, quoi.
Tout à fait. Et là, depuis que je suis seul, je suis très actif dans le monde associatif. J'ai fait une rééducation au SAMHSA. Le SAMHSA, c'est un centre de rééducation. C'est un service d'accompagnement avant tout. Et le SAMHSA DV, ça s'appelle, ici à La Réunion, à Saint-Louis. Actuellement, je suis porteur de projet. Pas mal de projets. Pourquoi ? Parce que c'est moi, ici à La Réunion, qui a inventé le projet de secouriste, brevet de secouriste pour les non-voyants et malvoyants, avec la caserne de pompiers de Saint-Pierre. Je suis porteur de projet sur une formation de pâtisserie adaptée sur Saint-Pierre, avec un grand chef pâtissier, M. Ramselot, Sébastien. Et je travaille actuellement sur un projet d'aide humanitaire pour l'année prochaine.
Vous avez toujours été actif comme vous l'êtes ces dernières années, là, ou bien du temps où vous étiez en famille, vous étiez un peu moins actif ?
En fait, quand on est en famille, il faut savoir, moi, j'ai dû ralentir mes activités parce que ma femme, vous savez, quand on est en couple, la femme est un peu jalouse quand on sort trop.
Oui.
Et moi, en tant que bénévole, j'étais vachement très dynamique, moi.
D'accord.
Et en plus, les arrêts de bus sur Saint-Denis de La Réunion, où j'habitais, dans la capitale, j'habitais tout proche des arrêts de bus. Donc, j'arrêtais pas de bouger. Même le dimanche, je devais aller faire de la randonnée avec des associations. Je ne pouvais pas. J'étais un peu gêné.
D'accord.
Mais là, actuellement, là, c'est bon. Là, je sais ce que je veux. Je sais que j'ai des projets. J'ai pas mal d'activités.
Oui.
Et j'essaie de rendre service, surtout rendre service à la personne qui est déficiente visuelle, de lui proposer des activités. On fait des pique-niques ensemble, on va dans les déjeuners dansants, dîners dansants, on va dans les médiathèques. Il y a toujours des lieux de rendez-vous, des points de rencontre. On se donne des points de rencontre pour pouvoir faire des activités de jeu, des loisirs, une partie de pétanque.
Alors, comme vous l'aviez certainement constaté, l'interview du jour n'a pas été réalisée par un membre de l'Imaginoire. Notez bien que nous aurions adoré partir à La Réunion pour le faire, mais question budget, c'était un peu serré. Alors, nous avons demandé aux médias alternatifs Parallèle Sud de le faire pour nous. Et donc, avant de retrouver Jean-Philippe pour la suite de son entretien, eh bien, on passe le micro à Franck Cellier de Parallèle Sud qui va nous expliquer ce qu'est ce média alternatif.
Bonjour, je suis Franck Cellier. J'ai cofondé Parallèle Sud avec trois autres journalistes. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et nous faisons vivre ce média alternatif avec beaucoup d'envie et de bénévolat, il faut bien l'avouer. On cherche notre modèle économique et on ne désespère pas de le trouver. Et Parallèle Sud, c'est un média qui veut parler de l'actualité vue au plus proche des gens. C'est pour ça qu'on s'appelle Parallèle Sud, parce que c'est une actualité du Sud par rapport à ce qu'on peut entendre dans les médias du Nord. Et Parallèle, c'est quelque chose comme un chemin de traverse. Et sur ce chemin, nous avons décidé d'ouvrir l'expression à quiconque a besoin de parler. Et c'est comme ça que nous avons rencontré Jean-Philippe Sevagami et vraiment l'expérience a tout de suite matché parce que il apporte en tant que journaliste amateur son vécu de personne non voyante, donc ça nous permet de développer un journalisme différent de ce qu'on peut voir ailleurs où on essaie de comprendre comment vivent les gens qui nous entourent. Et maintenant, depuis plusieurs mois, eh bien, Jean-Philippe a créé cette chronique dans le noir. On imagine bien ce que ça peut être. On ferme les yeux et on est dans la peau d'une personne non-voyante. Autant quand elle fait du sport que quand elle fait une recette de cuisine, que quand elle essaie de se débrouiller dans la vie de tous les jours, dans la circulation ou quand elle va au spectacle. Voilà, c'est un des aspects de Parallèle Sud, mais il y en a beaucoup d'autres que je vous invite à aller découvrir tout simplement visitant notre site sur internet parallèlesud.com.
C'est un événement spécial qu'on est en train de faire, monsieur Jean-Philippe, c'est Vagami.
Un événement spécial de fabrication de gâteaux, événement spécial anniversaire.
Et c'est l'anniversaire à qui aujourd'hui? Joyeux anniversaire, Jean-Philippe! Super, c'est ça.
Ça. Ah. Ouais. Alors si vous voulez vous plonger dans les productions audiovisuelles de Parallèle Sud, rendez-vous sur leur page YouTube avec le raccourci @parallelesud4100. Et donc après ce petit virage avec Franck Cellier de Parallèle Sud, nous retrouvons la suite de l'entretien avec Jean-Philippe Sevagami. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, portrait inspirant. Retour à l'entretien.
À quoi ressemble une journée chez vous? Ça a l'air d'être hyper actif maintenant.
Ben moi, quand je me réveille, je sais qu'à 5 heures, je me réveille. Je prends mon café sur ma terrasse, l'air frais qui vient sur moi, sur mon visage. À partir de là, j'écoute mes infos. Et à partir de 8 heures, je me mets dans le monde associatif. Et là, c'est les mails, c'est réponse des mails ou lancer des mails. Et puis à partir de là aussi, je suis 3 fois par semaine dans ma salle de sport. Salle de musculation.
Oui.
Je suis le seul non-voyant dans la salle de sport. Et le samedi, je fais du goalball avec Andy Sport. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer notre concours. On est invité à participer dans la fédération en Martinique.
Voilà. Et toutes ces activités sont à titre bénévole. Vous n'avez pas pu, à un moment donné, trouver un métier rémunéré ?
Non, je n'ai pas voulu, parce que moi, j'ai été avant, en 1998, vice-président de mon association que j'ai mis en place. Et par la suite, j'ai été dans d'autres, administrateur dans d'autres associations. Mais le problème, j'ai constaté qu'on se tire tous dans les pattes les uns les autres. Et aujourd'hui, si je suis tout seul dans des projets, je mène des projets avec des gens, mais je préfère être sans titre associatif. Je suis plus libre et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux aussi. Mm-hmm. Je sais aujourd'hui que je suis quelqu'un qui est très déterminé, qui est très motivé par pas mal d'actions. Et donc actuellement, ben, ce que je veux, c'est faire plaisir à tout le monde, c'est donner mes idées, c'est partager mes idées, c'est transmettre mon savoir-faire et dire aux gens que je suis là et qu'ensemble, nous avançons comme ça.
C'est ensemble, vrai que main dans la main. Vous transpirez le dynamisme. Hein, on vous voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu hyperactif. Mais c'est quoi dans votre moteur qui vous motive comme ça ?
Ben, c'est la détermination. D'ailleurs, j'ai été faire une... J'ai été invité à Marseille, à l'IRSAM de Marseille, pour pouvoir parler de ma détermination. Et ça fait plaisir parce que c'est là qu'on rencontre d'autres gens comme soi. J'ai rencontré... on était à 6 binômes et il y avait 6 personnes handicapées, donc. Et chacun a leur témoignage, chacun a quelque chose à transmettre. Et moi, j'avais quelque chose aussi à transmettre pour nous, les déficients visuels. Et c'est pour ça qu'actuellement... Moi, je suis souvent dans les journées de sensibilisation. Je suis même, j'ai demandé même à Parallèle Sud une rubrique qui s'appelle « Chronique dans le noir ». Ça résume en gros tout ce qu'un non-voyant est capable de faire, tout ce qu'un non-voyant fait dans sa vie. Et moi, ça me fait plaisir de participer à toutes ces petites choses. Et même chez moi, je me suis adapté parce que chez moi, c'est comme une maison robotisée. Il y a toute la technologie, il y a mon Google, Alexa, ma télé intelligente, il y a mon ordinateur synthèse vocale.
Et vous apportez beaucoup de soutien aux gens qui, comme vous, partagent un handicap, mais vous avez aussi un message à apporter aux valides. Et c'est ça aussi que vous ouvre Parallèle Sud. C'est que chaque jour, vous êtes lu par des personnes qui n'étaient pas forcément sensibles au problème de la malvoyance, non-voyance ou du handicap. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux gens ?
À travers les journées de sensibilisation, même à travers les articles de Parallèle Sud, moi, ce que je veux apporter, je veux dire aux gens, c'est nous, en tant que non-voyants ou malvoyants, nous sommes là. Mais quand vous, quelle que soit la personne qui passe en face de moi, vous voyez un non-voyant ou vous voyez un malvoyant, ben, prenez le temps de le saluer, prenez le temps de dire bonjour, serait-ce un bonjour ? Monsieur, est-ce que vous avez besoin de notre aide ? Est-ce que vous avez besoin que je vous aide ? Prenez ce temps. Faites un geste à cette personne-là. Peut-être pas lui sourire. Vous pouvez lui sourire. Et peut-être pas, il verra pas votre sourire, mais au moins, vous allez lui parler. Ben oui, bien sûr. Il faut pas être ignorant.
L'émission arrive bientôt à son terme. Nous allons donc retrouver une dernière fois Jean-Philippe, qui va, entre autres choses, nous parler de son projet à Madagascar. Alors, restez à l'écoute de l'Imaginoire, portrait inspirant, retour à l'entretien.
Je vois aussi que vous essayez de faire bouger les choses. Vous visitez, par exemple, des sites touristiques. Ça aussi, c'est une autre mission. Est-ce que vous trouvez que la Réunion évolue un petit peu dans l'accessibilité aux personnes handicapées ?
La Réunion, ça, c'est vrai que ça avance un petit peu, ça a avancé, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Moi, actuellement, j'essaie de me battre, par exemple, dans la gare Carjeune à Saint-Pierre. Il n'y a pas mes bandes de guidage par terre, podotactile par terre. Je me bats à dire à la région, je veux ces bandes de guidage par terre à la gare de Saint-Pierre parce que j'en ai besoin pour aller au-dessus à la CC base.
Bien sûr.
Mais malheureusement, j'envoie le courrier. J'ai pu envoyer le courrier au moins 4-5 fois, mais pour l'instant, zéro.
Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire pour être entendu. Et là, vous parlez en fait beaucoup de votre activité. Quand Jean-Philippe Sevagami se repose, quand il s'amuse, c'est quoi sa vie de loisir ?
Ma vie de loisir, c'est les pique-niques, partager avec les amis. Et les amis qui sont voyants, non-voyants, malvoyants. Comme demain soir, je m'en vais à un dîner dansant que j'ai organisé avec des amis. On a organisé, moi j'organise souvent le transport. Et là, c'est mon plaisir, c'est d'arriver sur place. Et j'adore danser, j'adore m'amuser, j'adore la fête. C'est pas parce que je ne vois pas que j'aime pas m'amuser, au contraire. Moi, dès quand il y a la musique commence, je suis un des premiers à être sur la piste de danse.
Je vous ai entendu chanter une fois et j'ai pu remarquer que vous chantez bien juste, quoi.
Mais on fait souvent des karaokés aussi, hein.
Voilà. Peut-être un mot sur le projet qui vous tient le plus à cœur, celui avec Madagascar. Ça avance ?
Le projet de Madagascar, depuis 20 ans, j'en ai rêvé. Parce que avant, comme je l'ai toujours dit, quand on est non-voyant, on a du mal à être guidé. Il faut être guidé par les autres. Donc ce projet dort dans mes tiroirs depuis 20 ans. Et là, du fait que je suis au Samsa DV de Saint-Louis, donc à partir de là, je profite que je sois au Samsa pour pouvoir faire ce projet. Parce qu'il y a au moins 2 professionnels qui y vont avec nous. On est à 3 bénéficiaires et 2 professionnels. 2 professionnels du SAMHSA qui vont nous accompagner pour le mois de mai.
Et vous allez où au mois de mai ? Vous allez rencontrer qui ? Et vous allez leur apporter quoi ?
On va avant tout dans une école religieuse. Il y a 52 enfants, non-voyants, malvoyants. 52 enfants de 11 régions différentes de Madagascar. Et ce sont des primaires, collèges, lycées. Notre but, c'est d'aller sur place avec eux, rester sur place pendant une semaine avec eux. On va pouvoir échanger, les initier au braille, les initier au niveau de la canne blanche, la locomotion, leur montrer comment réparer une canne, comment se servir d'un téléphone, d'un iPhone, quel que soit d'un ordinateur portable. Nous allons leur porter aussi des livres en audio. Nous allons également leur donner des jeux. Tout sera donné, hein ? Des jeux de société adaptés. Tout sera adapté, c'est que du matériel adapté que nous allons porter avec eux. Par exemple, nous allons apprendre au personnel comment se servir d'une balance parlante de cuisine parlante, un tensiomètre, un thermomètre parlant. Voilà.
Merci, je crois que vous êtes la preuve vivante que malgré le handicap, malgré sans doute quelques coups durs, vous êtes arrivé à vous épanouir totalement.
J'essaye. Hein. Voilà, il faut. Moi, j'ai toujours dit. Il faut montrer ses talents, mais ne pas se renfermer sur soi-même. Ne pas broyer du noir, comme j'ai toujours dit. Ne pas rester dans le noir. On est déjà dans le noir. Il ne faut pas s'enfoncer dans le noir. Il faut sortir, être vivant, montrer aux gens qu'on existe et ce qu'on est capable de faire, surtout. Voilà.
Merci beaucoup.
Pas de quoi. Merci à vous.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Philippe, merci à Franck de Parallèle Sud. Retrouvez donc les productions de ce média alternatif sur YouTube. Cherchez et trouvez-les avec le raccourci @parallèlesud4100. Et on espère retrouver Jean-Philippe pour nous tenir, par exemple, au courant de son projet futur à Madagascar. Et comme dit au début de l'émission, l'Imaginoire est pensé et réalisé par des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous vous sentez concerné, eh bien, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org, trouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou même YouTube, ou adressez-vous à votre radio qui nous passera le message. Et ensemble, faisons avancer la sensibilisation. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance et soutenue par la cave de Rouen. À bientôt pour une nouvelle émission.